Bonsoir, c'est Madame Pénicaud qui nous annonçait pour aujourd'hui le Big Bang du système de la formation professionnelle. Raté, il va falloir attendre encore quelques jours. Lundi, normalement, le gouvernement s'étant rendu compte entre-temps qu'il gérait aussi le dossier de la SNCF. Bon, attendons justement. Au-delà de cette déconvenue, le chantier reste considérable. Et les enjeux, évidemment, fondamentaux dans la lutte contre le chômage. On voit, il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui évoluent, il y a des métiers qui se créent. Est-ce qu'on est prêt systématiquement? Non, justement, pas toujours. En tout cas, la France, elle a du retard. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la formation professionnelle? Pourquoi n'est-on pas bon? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et pourquoi n'est-on pas bon, et puis comment être meilleur aussi. Voilà, on essaie quand même de se poser des plans, des pistes pour essayer d'améliorer ce système. Oui, on verra aussi si les partenaires sociaux ont envie de laisser tomber le délicieux gâteau de la formation, et au-delà de ça, du paritarisme, de beaux milliards à se partager. On va en parler avec Florence Poivet, qui est négociatrice du MEDEF sur la formation professionnelle. C'est la présidente de la Fédération de la plasturgie et des composites. L'économiste Francis Kramer, c'est un grand spécialiste des questions de l'emploi, directeur du Centre de Recherche en Économie et Statistique. Nicolas Jachier, président du Syntec Ingénierie et président de sa boîte aussi, Edgis, qui est un groupe d'ingénierie. Guillaume Richard, PDG du groupe O2, vous savez, spécialisé dans tous les services à la personne. Il est au comité directeur de Croissance Plus. Et puis Catherine Smadja, auteur d'un rapport très intéressant sur la formation professionnelle, qui montre que cette formation professionnelle ne se fait pas toujours au profit des femmes, au profit de la parité. Elle nous en parlera. Tiens, Florence Poivet, juste un mot, je le disais, le gouvernement, s'est rendu compte peut-être qu'il gérait en même temps le dossier de la SNCF. Alors, officiellement, il doit, histoire de ne pas multiplier les annonces, officieusement, est-ce que le gouvernement était vraiment prêt sur ce plan de formation professionnelle? Et c'est un petit peu avancé ou pas, Madame Pénicaud?
Écoutez, je crois que vous avez raison de dire qu'il y avait plusieurs sujets. La formation professionnelle, l'assurance chômage aussi, et la SNCF. Et que peut-être, effectivement, la rencontre des trois ensemble faisait beaucoup et qu'il y avait peut-être des ajustements sur l'un sujet ou sur l'autre à apporter.
Voilà, c'est si la raison officielle. Voilà, calendrier un petit peu surchargé, mais bon, voilà. Le plan, il était prêt vraiment ou pas? Vous avez des infos ou pas? Apparemment, il n'était pas complètement ficelé.
Vous l'avez dit, ce sont des sujets majeurs. C'est pas des solutions toutes prêtes que l'on amène. Et c'est des solutions qui, quelles qu'elles soient, méritent échange, méritent d'être construites ensemble si on veut véritablement qu'elles puissent être efficaces derrière.
Bon, vous avez raison de rappeler, encore une fois, que les enjeux, ils sont fondamentaux. Le chantier, il est immense pour lutter contre le chômage. Je vais citer le président de la République qui, il y a une dizaine de jours, c'était mi-février, pointait la dégradation de notre système de formation. Vous avez quasiment 2 millions de chômeurs qui ont un problème de qualification, disait le chef de l'État. Donc vous ne baisserez pas le chômage en jouant juste sur le cycle économique. Francis Kramart, c'est quoi les carences du système? On dit qu'une grande partie des travailleurs en France sont non qualifiés, moins bien qualifiés, 10 points de moins que dans le reste de l'OCDE. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a plusieurs choses qui se passent. Je crois qu'un des éléments essentiels, c'est qu'on a 150 000 personnes qui sortent sans diplôme du système scolaire chaque année depuis très très longtemps. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, deuxième chose, si on regarde du côté de la formation professionnelle, on sait qu'elle ne va pas aux personnes qui en ont le plus besoin, pour aller rapidement. Mais je voudrais insister aussi sur le fait qu'on parle d'apprentissage, c'est un élément essentiel. Tout ça, c'est différentes pièces d'un puzzle. Et l'autre élément du puzzle, c'est ce que fait Blanquer à l'Éducation nationale, parce que je crois que les travaux de recherche montrent depuis des années que l'investissement doit se faire entre 0 et 3 ans. Pour que les gens puissent maîtriser de nombreuses choses, le calcul, la lecture, et que ça, on ne le rattrape pas. Et donc, il y a besoin aussi de penser une stratégie de l'école. Parce que ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces choses, c'est du rattrapage pour les personnes qui n'ont pas su bénéficier à plein de la formation initiale. Qui s'arrête, qui va assez loin en France, si l'on se compare à d'autres pays, la Suisse est un pays intéressant, mais où les gens peuvent arrêter assez tôt de faire des études, relativement tôt, ou la Suède, et reprendre après des études, non pas des études en formation professionnelle, mais des études avec des vrais diplômes à la fin. Donc il y a quand même une architecture à penser, c'est important, c'est mon rôle, si je puis dire, d'économiste, de penser ces différentes choses ensemble.
Guillaume Richard, Croissance Plus, à la tête de O2.
Eh ben, ça rejoint justement une des propositions de Croissance Plus. C'est-à-dire que pour que l'apprentissage soit une filière vraiment intéressante et attractive, permettons à des jeunes qui commencent au départ par l'apprentissage, de leur donner la possibilité, pendant 10 ans, ou pendant 15 ans, de faire des études supérieures après avoir fait leur cycle technique. Donc, on peut imaginer que la personne de 16 à 18 ans arrive à son niveau bac pro, travaille pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, et puis après, fasse les études supérieures et gagne, entre guillemets, un crédit, parce qu'elle n'aura pas fait ses études supérieures en continuité, elle n'aura pas fait ses études supérieures entre 16 et 25 ans, comme font la quasi-totalité des gens en France. Eh bien, non, elle ne les aura pas fait en continuité, elle pourra les avoir fait de façon ultérieure, elle aura pu emmagasiner une expérience professionnelle, elle aura d'abord fait sa formation technique, puis après elle aura emmagasiné l'expérience professionnelle et elle sera encore plus à même après de reprendre ses études. Et donc c'est une proposition de Croissance Plus que de l'intégrer dans le CPF et avoir ce droit en fait aux études supérieures qui puissent se faire ultérieurement et non pas en continuité par rapport à un premier cycle d'apprentissage.
Le compte personnel de formation, et c'est vrai que ça pose aussi une question, c'est à quel moment doit intervenir une formation professionnelle, c'est quand on tombe dans le précaire, c'est-à-dire quelque part à un moment donné, quand il y a le feu quelque part, ou alors répartir ça tout au long de la vie. Ça, c'est une question fondamentale qu'on ne fait pas très bien jusqu'à présent. Guillaume Richard.
Mais vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. La formation, elle ne doit pas s'arrêter à la formation initiale. Elle doit pouvoir se poursuivre tout au long de la vie. Elle doit pouvoir aussi se faire de façon souple. Et là encore, Croissance Plus a des propositions, notamment en termes de formation digital et de e-learning qui permet en fait de se former quand on veut, où l'on veut. Le où l'on veut, il est super important. Moi j'habite un petit village de province à côté du Mans et la mobilité est une vraie question. Pouvoir se former de chez soi dans la ruralité, c'est super important. Si on est obligé d'aller à la grande ville qui a 30, 40, 50 bornes de chez soi, la formation elle est difficile. Si on est obligé d'être dans du présentiel avec des horaires qui sont imposés, un lieu qui est imposé, c'est compliqué. Si on peut se former chez soi, le soir, le week-end, en journée, à tout moment, grâce à des systèmes qui sont extrêmement bien faits aujourd'hui, avec de la vidéo, qui mélange de la vidéo, des tutoriels, des systèmes où, comme dans les jeux vidéo, vous êtes obligé d'avoir validé la leçon pour pouvoir passer à l'étape au niveau
suivante.
Supérieur.
Oui, bien sûr. Ouais.
Ça marche.
Florence Poivet, le MEDEF, la Fédération de la Plasturgie.
Oui, je voudrais rebondir sur, à la fois sur ce que vous disiez et ce que disait Guillaume. Le parcours, c'est extrêmement important. C'est tout au long de la vie. Mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que l'environnement de formation, il doit avoir beaucoup de passerelles. Et la passerelle entre l'apprentissage et l'académique, mais aussi la passerelle, si je prends l'exemple de la plasturgie, je suis un jeune, je commence plasturgie, je dois pouvoir faire rentrer dans mon cursus à un moment de ma vie professionnelle, pourquoi pas du textile, et je deviendrai un pro des textiles intelligents pour médicaux, etc. Pourquoi pas aussi y rajouter de l'électronique. Bref, que ces parcours ils puissent se construire tout au long de la vie de la petite enfance. Et d'ailleurs, pardon, quand on voit ce que Jean-Michel Blanquer est en train de faire avec le bac, qui est un bac qui va se construire avec des modules, d'une certaine façon. Cette modularisation, il faut vraiment que nous en ayons une conscience très forte et que nous la construisions.
Et c'est aujourd'hui, Florence Poivet, c'est impossible, c'est passerelle pour ce jeune de faire un peu de plasturgie, un peu de textile.
Non, c'est pas impossible, mais il faut le faciliter, il faut beaucoup d'agilité, il faut revoir tout le système de la certification.
Où se trouve, où se trouve le blocage ? À quel endroit ?
C'est
chez vous, les employeurs, ou c'est au niveau du financement
Nous, employeurs, nous devons être beaucoup plus pertinents dans l'expression des besoins en compétences qui sont les nôtres et que nous maîtrisions cela véritablement. Et dans la négociation que j'ai menée, cette prise de conscience et cette volonté politique est là et des moyens financiers vont être au service de nos observatoires pour cela. Et ensuite, ça doit se transformer de façon agile, souple, rapide, moderne, en certification, en module, hein, en bloc, ce qu'on appelle de bloc de compétences, et en formation de toute nature, que ça soit présentiel, que ça soit à distance, que ça soit les deux. Et là, c'est nous, c'est l'éducation nationale, c'est tout le monde.
Oui. Alors, juste avant Nicolas Jachier, Francis Kramaz, vous me faisiez signe.
Ah, je vous faisais signe parce que je vous apprécie. Mais
au-delà de ça.
Mais plus sérieusement, plusieurs choses. Ce dont vous parlez est tout à fait intéressant, mais les gens dont parlait Macron, c'est les gens qui sont les plus fragiles.
Et ben voilà, ouais.
Or là, on parle de gens qui sont quand même déjà agiles.
Voilà. Ça, c'est une... Parce que actuellement, pardon, ce que vous disiez, Francis Kramaz, et je pense que c'était parfaitement juste, on ne vise pas toujours les bonnes cibles. L'essentiel de l'effort, en ce moment, il vise qui ? Les diplômés, les qualifiés. Et pour les autres.
Y compris les gens qui ont des diplômes professionnels. Bien sûr. Je parle pas des ingénieurs. Donc, il y a une vraie question. Il y a une autre chose qui me semble tout à fait importante, c'est que, et je comprends que le MEDEF ou Croissance Plus le pousse dans ce sens, même si je suis assez d'accord, dans le fond, avec cette idée qu'il y ait des comptes, hein, c'est des comptes de formation. On dit, vous avez le droit à la licence, et puis si vous n'avez pas utilisé tous vos crédits pour aller jusqu'à la licence, vous pouvez l'utiliser. Très bonne idée. Mais ça, il faut redonner complètement la main à la personne pour utiliser ces sommes-là. Pour pouvoir les utiliser, il faut que ça soit des sommes qui les utilisent.
Des sommes et pas des heures. Parce que là,
des sommes et pas des heures.
Voilà, des sommes et pas des heures. Ça veut dire qu'il y a un arbitrage à faire avec ce qu'il utilise sur le moment ou ce qu'il aura plus tard à la retraite. La question de ces comptes qui sont de nature, qui sont extrêmement, qui permettent beaucoup d'agilité, c'est toujours des bonnes idées. Faut faire très attention à la façon dont ça se met en place.
Et on verra surtout aussi qui gère cet argent aussi. Ça, c'est une question
bien sûr,
un petit peu
mais,
importante.
Mais juste pour finir, beaucoup de pays permettent aux personnes de déduire dans leurs impôts, sur le revenu, les dépenses de formation qu'ils font. Nous ne le permettons pas de la manière dont les Hollandais, par exemple, le permettent. Ce sont des choses qui redonnent de la liberté aux salariés, parce que c'est bien l'entreprise, mais être capable, dans le fond, de se faire désirer, ça redonne du pouvoir de négociation aux salariés qui en ont bien besoin aujourd'hui.
Nicolas Jachier, président du Syntec Ingénierie. Le problème de la formation aussi, est-ce qu'il y a toujours une bonne adéquation entre les formations proposées et les besoins des entreprises ? Est-ce que la formation professionnelle, elle répond justement aux besoins des entreprises, des salariés ? On dit toujours que les entreprises ont des difficultés à trouver le bon profil. Vous recrutez spécialement dans cette filière ingénierie.
L'ingénierie, c'est 300 000 personnes. Et on a un recrutement d'à peu près 40 000 par an et en net de 10 000 en ce moment. La conjoncture est favorable, enfin voilà, le recrutement est fort. On a de très forts besoins en formation tout au long de la vie. Et pourtant, on s'adresse essentiellement à un public déjà très diplômé, 80% d'ingénieurs. Mais l'ingénieur qui ne se forme pas au long de sa carrière, il sera déclassé. Et surtout, dans la période actuelle de transformation, de révolution numérique, la conception numérique dans les activités de construction, c'est à peu près un tiers de l'activité de notre branche, on a 80 000 personnes à former dans les 5 ans à venir. Si on ne le fait pas, on a d'énormes besoins.
Là aujourd'hui, avec cette révolution schumpeterienne, avec des métiers qui disparaissent, des métiers qui évoluent, des métiers qui se créent, vous nous dites, on n'arrive pas à faire face. La France, elle est en retard, réellement.
Elle est en retard. Alors, on fait face quand même. Hein. On arrive à former et à recruter, à faire évoluer les compétences de métiers où il y a moins d'activité vers des métiers où il y a plus d'activité. Hein. Néanmoins, on embauche. Et non seulement on embauche, mais on a besoin d'assurer l'employabilité dans la durée de nos salariés actuels. Parce que la formation des demandeurs d'emploi, c'est fondamental. Mais la formation de ceux qui risquent de devenir demandeurs d'emploi si on ne s'occupe pas d'eux, c'est tout aussi fondamental.
Francis Kramaz.
Oui, ça me semble être le métier des entreprises que de dépenser de l'argent pour la formation. Et par ailleurs, vous savez que Muriel Pénicaud et certaines personnes autour d'elle parlent d'expérience rating. Alors je sais pas, le mot n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, que les entreprises qui licencient plus payent plus. D'une certaine manière, ça va obliger les entreprises elles-mêmes à former les personnes qu'elles seraient obligées d'aider, si je puis dire, si elles les licenciaient. Donc, je pense qu'il faut absolument se focaliser sur les moins qualifiés, ceux qui ont le moins bénéficié de la formation depuis que ça existe, depuis Fontanet et De Gaulle.
Ouais, juste, on parle de l'argent hein, aussi, une question importante aussi. le système est-il toujours transparent? Est-ce que le système n'est pas trop opaque, trop coûteux? De façon générale, le paritarisme. Emmanuel Macron a promis d'investir 15 milliards d'euros en 5 ans dans la formation professionnelle. Actuellement, le budget de la formation, géré par les organismes paritaires, quoi, 13 milliards et quelques, Florence Poivet?
Oui, oui.
Ouais, c'est ça, justement. Est-ce que l'argent du paritarisme va toujours à ceux qui en ont besoin?
Alors, une chose est très claire. La formation professionnelle, et moi je suis très heureuse, et au MEDEF on est très heureux que le gouvernement ait mis les trois sujets en même temps
sur la table. Formation, apprentissage, assurance chômage.
Formation et demandeur d'emploi. Et les trois sont importants. Et il y en a deux qui étaient un peu banco hein, avant la réforme, c'est l'apprentissage. Et là, il y a un véritable Big Bang qui a lieu et on est très heureux de cela. On a besoin dans notre pays d'une formation professionnelle initiale qui soit attractive, qui soit privilégiée, que les jeunes aient envie de, bon. Et puis, il y a, et je vous rejoins, mais il y a toute la formation des demandeurs d'emploi et qui est vraiment en panne dans notre pays. Et nous avons proposé au gouvernement, et quelque part c'est le schéma qu'il propose, qu'il y ait un pilotage clair de chacun de ces publics avec des financements identifiés pour chacun de ces publics. Et sur la formation des demandeurs d'emploi, désolé de dire, mais notre pays aujourd'hui est en queue de peloton en termes d'efficacité de l'euro investi pour le demandeur d'emploi. Et pourtant, pour chaque demandeur d'emploi, on dépense plus que la moyenne européenne. Oui, l'argent est...
Et il sert à quoi cet argent? La question que je vous posais, est-ce que l'argent du paritarisme va toujours à ceux qui en ont besoin? Le paritarisme, et là j'ai parlé juste de la formation professionnelle, le paritarisme c'est 150 milliards d'euros en France, hein, quand on mêle tout, l'assurance chômage, la formation professionnelle, la prévoyance, etc.
Alors l'argent du paritarisme, à partir de la réforme, oui, il sera fléché apprentissage, oui, et il sera fléché formation des salariés. Oui. Et sur la formation des demandeurs d'emploi, c'est une contribution qui sera, je dirais, ciblée vers l'État. Et ça sera à lui de gérer cela, et c'est sa responsabilité.
Ça,
notre
c'est
responsabilité,
voilà, ouais,
c'est l'apprentissage et c'est la formation de nos salariés.
Où va l'argent aujourd'hui de la formation professionnelle? Guillaume Richard, O2, Francis Kramartz.
Alors, je ne sais pas exactement où va tout l'argent de la formation professionnelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe pour quelqu'un qui perd son emploi? Vous perdez votre emploi, aujourd'hui, mardi, qu'est-ce qui va se passer? Demain, vous allez vous présenter au Pôle emploi. Vous allez voir un conseiller. Vous allez prendre un premier rendez-vous pour dans un mois et demi, deux mois. Dans un mois et demi, deux mois, là, vous allez constater que vous n'avez pas encore réussi à retrouver un emploi. Donc, on va vous proposer une formation. Ok, très bien. La prochaine formation présentielle, elle est dans deux mois. Donc, dans quatre mois, vous allez commencer une formation. C'est-à-dire, on sera à peu près en juin. Ah oui, mais non, là, ça marche pas parce que, en fait, vous aurez une obligation quelconque qui fait que cette formation ne pourrait pas aller. Donc, vous allez prendre celle d'après dans cinq mois. Et puis là, vous allez commencer un cycle présentiel, avec l'AFPA, par exemple, et vous allez avoir une formation qui va durer pendant 6 à 7 mois. Au bout de 6 à 7 mois, vous allez sortir. Pendant tout ce temps-là, vous ne pouvez pas prendre un emploi. En 6 à 7 mois, vous allez sortir, et donc vous allez sortir dans un an, à peu près, vous allez sortir de votre formation avec un ensemble d'autres personnes. Et peut-être que 2 ou 3 mois après, vous allez pouvoir reprendre un emploi. Au total, ça va durer 15-16 mois. Ce qu'on propose, de façon extrêmement concrète, de façon extrêmement simple, chez Croissance Plus, c'est d'utiliser tout le potentiel du e-learning qui pourrait faire que demain, vous êtes aujourd'hui au chômage, demain, vous allez chez Pôle emploi, on vous donne des codes d'accès et vous pouvez vous former et changer tout le réflexe de l'assurance chômage. Aujourd'hui, l'assurance chômage, c'est assurance. J'ai une assurance pour me garantir un maintien à peu près de mes revenus et non pas pour m'accompagner, pour reprendre...
Trouver un emploi.
Pour améliorer mes compétences. Et non pas pour reprendre un emploi, pour reprendre un meilleur emploi. Parce que si j'ai amélioré mes compétences, je ne vais pas reprendre le même emploi. Il n'y a pas de raison, je vais prendre un meilleur emploi.
Mieux.
Et donc, je reprends mon exemple. J'ai perdu mon emploi. Dès maintenant, je peux m'inscrire. Et je vais pouvoir commencer. Et je vais pouvoir commencer à me former. Par exemple, je vais me former sur des langues. Je vais pouvoir commencer à me former quand je veux sur du système distanciel en e-learning. Et je vais pouvoir répondre à une annonce d'emploi en donnant à mon employeur, à mon futur employeur, en disant « Voilà, je suis en formation par rapport au niveau de diplôme que vous attendez. Et je pourrai continuer cette formation en étant dans l'emploi chez vous. » Parce que cette formation, c'est pas une formation présentielle qui m'empêche de répondre aux annonces d'emploi pendant que je suis en formation. Parce que quand vous êtes dans une formation présentielle indispensable, avec une présence obligatoire, vous ne pouvez pas répondre aux annonces d'emploi. Alors que là, si vous êtes sur une formation souple, agile, moderne, on a aujourd'hui des moyens qui le permettent de le faire. Et bien, même quand vous êtes au fin fond de la campagne, vous pouvez commencer votre formation. Vous pouvez la commencer. Vous pouvez, derrière, postuler un emploi, reprendre cet emploi et continuer cette formation le soir, le week-end. Et votre employeur, derrière, il peut dire, eh ben, ok, on fait un pari ensemble. On fait le pari ensemble que vous allez réussir cette formation. Et donc, moi, je vais vous embaucher, sachant que vous êtes en train de suivre cette formation et que vous allez avoir cette formation. Et donc, ça pourra être un des éléments aussi du contrat de travail, de réussite de la formation, l'emploi.
Oui. Vous voulez me dire un mot, Catherine Spadger ?
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à permettre de suivre une formation à n'importe quel moment de la vie, et en particulier pour les femmes. Il y a des moments qui sont, par exemple, les congés parentaux, pendant lesquels on peut continuer à se former. Et puis, il y a aussi la période de retour à l'emploi. Or, une des choses extrêmement difficiles en entreprise, c'est qu'on sait bien que dans une entreprise, l'encadrement va regarder quels sont les talents en devenir. Ce travail de sélection des talents que l'on formera pour ensuite les promouvoir se fait entre 25 et 35 ans. Que font beaucoup de femmes entre 25 et 35 ans ?
Des bébés.
Voilà. Et elles n'ont pas cette possibilité d'accéder à cette chance.
Bien sûr.
Et donc, une des choses que l'on propose, c'est que systématiquement, on regarde ensuite, on considère que puisque la carrière va se prolonger bien au-delà de 35 ans, on donne la possibilité de se former, d'être considéré comme un talent de venir bien après 35 ans.
Parce que ce que vous avez pointé justement dans le rapport que vous avez écrit avec le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, c'est que le processus d'apprentissage renforce aujourd'hui les inégalités entre les femmes et les hommes, qui sont déjà très très fortes dans le monde du travail. Seuls 40% des salariés EES, sur celles ayant la possibilité, bénéficient du plan de formation des entreprises. Et même après avoir bénéficié d'une formation, les femmes continuent de subir un certain nombre d'inégalités.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire que ce que l'on voit, en fait, on regarde les chiffres, on se dit 43% de chances de suivre une formation quand on est une femme dans l'année, 45% quand on est un homme. Bon, c'est pareil. Hein, franchement, c'est pas. N'en faisons pas tout un cinéma. Et puis, on regarde et on se dit oui, mais attention, 12 heures de formation pour un homme, 20 heures de formation. 12 heures de formation pour une femme, 20 heures de formation pour un homme. Et on regarde d'autres indicateurs et on s'aperçoit que les femmes ne sont pas envoyées en formation qualifiante, en formation longue. Je dis dans le rapport, à un moment, on forme les femmes à la bureautique et les hommes au leadership. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les formations qui peuvent permettre une évolution de carrière, elles sont moins souvent proposées aux femmes. Pourtant, les femmes le demandent plus, mais on leur refuse.
Juste Laurence Poivet, vous êtes à la tête d'une fédération professionnelle, oui. La plasturgie, négociatrice du MEDEF. Ce que vous entendez, c'est scandaleux ce qu'elle nous raconte, Catherine Spadger.
Non, mais c'est un chemin d'évolution, bien sûr, qu'il faut accompagner. Mais j'entends et je fais mienne vos paroles. Pour autant, je pense aussi qu'il faut accompagner les femmes pour qu'elles osent. Parce que dans ma propre entreprise, industrie de la plasturgie, j'ai mis 10 ans pour les convaincre que des formations de techniciennes en machine, ça pouvait être des superbes aventures pour elles. Et au bout de 10 ans, ça y est, les premières ont commencé et ça n'a pas cessé. Elles ont beaucoup derrière ont voulu. Donc je pense qu'il y a les deux, il faut tenir les deux debout. Alors je voudrais dire que dans le cadre de la négociation que je viens de mener, moi je trouve qu'une des choses les plus intéressantes que nous ayons conclu avec les partenaires sociaux, c'est cette idée d'accord d'entreprise, de co-construction, de co-investissement entre les salariés et l'entreprise. C'est-à-dire que dans une démarche stratégique de montée en compétences pour l'entreprise, ça peut être du digital, mais ça peut être du confort de vie, ça peut être précisément des sujets comme celui que vous venez d'évoquer, eh bien, on passe un accord. Et à la faveur de cet accord, le salarié ramène ses heures ou ses euros ou ses points de CPF, et l'entreprise abonde. Et ça fait de la formation professionnelle un élément clé du dialogue social dans les entreprises, et en particulier dans les TPE et les PME qui n'ont pas l'habitude du dialogue social. Ça serait, je dirais, de leur mettre le pied à l'étrier du dialogue social sur un sujet qui est gagnant. Et pour la personne qui l'aide à grandir et qui collectivement aide à grandir toutes les entreprises.
Alors Francis Cramartz, Nicolas Jachet, et puis on revient juste après aussi, il faudra s'intéresser à ce qu'ont proposé les partenaires sociaux et ce sur quoi voudrait aboutir le gouvernement, parce qu'il y a quand même quelques divergences quand même. Elle veut reprendre la main, Muriel Pénicaud. Allez-y Francis Cramartz.
Oui, deux choses. Les femmes, puis le sujet que vous évoquiez à propos de l'e-learning. Première chose, en général, parmi les jeunes, femmes de moins de 35 ans, les femmes sont plus éduquées que les hommes. Donc, c'est quand même un fait positif. Vous êtes d'accord avec moi. Ce qui est troublant, c'est peut-être l'allocation faite par les entreprises à des formations qui ne seraient pas celles qu'on offrirait aux hommes. C'est pour ça que l'idée, que je ne vois nulle part dans aucun des plans, que les gens reprennent en main, peut-être avec des comptes, que ce soit eux-mêmes qui puissent choisir leur formation plutôt que leur entreprise... Comme ça peut se faire dans un certain nombre de pays, par exemple, vous savez, en France, on a fait de la réduction du temps de travail obligatoire, on a 35 heures, etc. En Suède, ils ont fait de la réduction du temps de travail sur la vie, c'est-à-dire que les gens peuvent partir un an. Certains font de la musique, d'autres font autre chose. Il y a des gens qui font de la musique aussi en Suède, ils aiment bien ça. Mais des gens font des formations de un an. Et c'est vrai que la nécessité souvent est de se former quand on veut changer de carrière, on a besoin de formations longues. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque, je pense, pour les personnes en France et qui renvoie à ce que vous évoquiez. Le deuxième point qui est intéressant, et on voit que les arbitrages sont compliqués, vous dites tout à fait justement qu'il y a ce que nous appelons en économie un effet de blocage, de lock-in. Quand vous êtes en formation présentielle, vous êtes embêté. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas chercher d'emploi.
C'est ce que disait très bien Guillaume Richard. Voilà, exactement.
Tout à fait. Sauf que lorsque les gens réfléchissent un peu, qu'est-ce qu'ont montré les travaux dont nous parlions auparavant et qui vous faisaient sourire ? C'est les travaux académiques. C'est que obliger les gens à une formation présentielle, c'est parfois un des seuls moyens de les faire reprendre un emploi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas aller en formation présentielle. C'était une des choses prises en compte par les pays nordiques, qui sont les champions de la sécurisation des parcours professionnels, pour faire la séparation du bon grain de l'ivraie. Vous êtes obligés d'aller en formation, c'est du présentiel, donc vous reprenez un emploi. On voit un pic de reprise d'emploi juste avant le début de la formation.
Attendez, moi je ne suis pas pour... tout l'un ou tout l'autre.
C'est pour ça que j'ai bien insisté en disant qu'il y a deux éléments qu'il faut mettre en regard. L'un qui fait que des gens, pour certaines personnes, c'est une bonne chose parce que ça les oblige dans le fond à se dire « mais j'ai pas envie de perdre mon temps ». Donc c'est pour ça que la question de redonner du pouvoir aux personnes sur leur sort est une question importante et est indissociable de cette question de compte dont ils pourraient disposer plus ou moins à leur guise dans le cadre de formation. Évaluer, certifier, c'est quelque chose sur lequel il faudra revenir de manière importante.
Alors, un mot, et puis on se retrouve dans un instant. Nicolas Jachiel, Syntec Ingénierie, redonner du pouvoir aux gens, redonner aussi de la latitude peut-être aux entreprises, moins leur imposer un modèle, moins les contraindre.
Alors, je crois que donner la latitude aux salariés, donner la latitude aux entreprises, c'est pas contradictoire. On n'est pas dans un système d'antagonisme. Nos collaborateurs, face à un système un peu complexe de formation professionnelle, ils se retournent assez naturellement vers leur manager en disant qu'est-ce qu'on peut faire d'utile. C'est un dialogue. Donc le dialogue, il existe déjà. L'accord sur lequel, par ailleurs, je peux avoir des réserves parce que je trouve qu'il simplifie pas.
On va y revenir. De
Madame Poivet. Mais l'accord, effectivement, avec ce gagnant-gagnant, va dans le bon sens. Mais ça se fait déjà. Ça se fait déjà aussi bien en dialogue collectif qu'en dialogue individuel sur la formation. Et s'il n'y a pas ce dialogue individuel, le salarié dans le système complexe qui existe. Il est perdu. Et puis l'entreprise elle-même, si elle ne convainc pas le salarié que c'est son intérêt de former, la formation ne servira à rien.
On se retrouve dans un instant. La formation, pourquoi est-ce qu'on n'est pas bon en France? Comment justement améliorer le système en attendant le Big Bang promis par Muriel Pénicaud lundi prochain? On se retrouve vite avec les décodeurs de l'écho. À tout de suite, dans quelques instants.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et en attendant, le Big Bang du système de la formation professionnelle promis par Madame Muriel Pénicaud. Rendez-vous lundi matin, cette fois, hein, parce que c'était prévu normalement cet après-midi, mardi. Oui, question que je pose à Francis Kramart, économiste, directeur du Centre de recherche en économie et statistique. Justement, on voit le taux de sous-emploi qui peine à descendre. Allez, on est sous les 9% en France, c'était la bonne nouvelle il y a une dizaine de jours. Hein, les chiffres de l'INSEE, mais n'empêche, on est à 9%, allez, globalement. Est-ce que les carences de notre système de formation professionnelle influent justement sur ce chiffre? De quelle manière on pourrait descendre en dessous et de quelle ampleur si on faisait mieux sur la formation?
Alors, si vous me posez la question exactement sur le système de formation professionnelle, je dirais non. J'ai envie de dire non de manière provocante. C'est le système de formation initiale qui est le coupable principal. Ouais. Parce que la spécificité, c'est pas grave. Si, c'est bien sûr que c'est grave, mais j'ai encore une fois envie d'exagérer. C'est pas grave d'avoir un taux de chômage élevé si les gens qui restent au chômage, ils restent très peu. Or, nous avons la spécificité que c'est toujours les mêmes qui sont en CDD, qui répètent, et c'est toujours les mêmes qui ont des taux des durées de chômage très longues. Or, ça, c'est plutôt lié à des carences en formation initiale, je pense. Évidemment, si la formation professionnelle pouvait aider à
réduire
ça,
ça serait
remarquable. Ouais. Juste une chose, on parle souvent du taux d'emploi des jeunes, du taux de chômage des jeunes, c'est une fausse mesure. Dans tous les systèmes où il y a de l'apprentissage, le taux de chômage des jeunes est très faible. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent tout de suite un emploi auprès de leur employeur ou d'un employeur proche. La spécificité française, c'est surtout qu'on a un taux d'emploi des jeunes qui est faible parce qu'il y a, selon moi et selon les travaux, outre ces questions de formation initiale dont on vient de parler, pas assez de concurrence. On en a déjà parlé, Fabrice. Les entreprises jeunes emploient des jeunes. Les travaux montrent que les entreprises jeunes emploient des jeunes. Donc, plus il y a d'entreprises jeunes, et ben plus les jeunes pourront rentrer. Et donc ça, la concurrence a des bénéfices. Aussi pour l'emploi des jeunes.
Florence Poivet, négociatrice du MEDEF à la tête de la Fédération de la Plasturgie.
Oui, un constat qu'on peut faire, et vous l'avez effleuré.
Vous n'êtes pas d'accord avec lui?
Si, mais je serais plus affirmative sur le fait que la formation professionnelle
elle
a un impact sur l'emploi des jeunes. Et on sait que dans les pays où elle est très développée, elle est un vrai levier de compétitivité pour les entreprises, elle est un levier de sécurisation pour les parcours des personnes, eh bien, ils sont eux-mêmes créateurs d'emplois. Et que 50% des apprentis dans un certain nombre de pays sont eux-mêmes créateurs d'emplois. Donc oui, la formation professionnelle initiale, elle est favorable à un chômage très diminué de la jeunesse.
Guillaume Richard à la tête de O2 et puis membre de Croissance Plus.
Oui, alors justement, sur l'apprentissage, il y a une chose qui nous paraît complètement hallucinante chez Croissance Plus, c'est le fait que la rémunération de l'apprenti, elle n'est absolument pas liée au diplôme que vous suivez, mais à l'âge que vous avez. Ce qui est délirant.
Bizarre.
C'est-à-dire que vous avez 16 ans, vous suivez une formation CAP boulangerie, vous avez 25 ans, vous suivez le CAP boulangerie, vous n'avez pas la même rémunération. Vous êtes pourtant au même niveau d'études. Et donc ça, c'est aberrant économiquement pour l'entreprise, et c'est surtout un frein énorme pour tous ces jeunes qui ont eu un accident de parcours et qui vont recommencer sur une formation de CAP, par attente, à 22, 23, 24, 25 ans. Et qui vont être payés beaucoup plus que celui qui a 16, 17 ans. Alors qu'ils font la même formation. Et là, faire une rémunération qui soit exclusivement liée à l'âge et non pas au diplôme suivi, c'est délirant.
Oui, alors, l'accord qui a été conclu par les partenaires sociaux la semaine dernière et qui va servir de base. Alors, est-ce qu'elle va tout reprendre à son compte, Madame Pénicaud? Pas sûr. Hein. Accord signé entre le MEDEF, FO, CFDT, CFTC, qui contient entre autres un renforcement du compte personnel de formation qui permettra aux salariés de cumuler 35 heures de formation par an au lieu de 24, dans la limite de 400 heures au lieu de 150, une absorption dans le CPF du congé individuel de formation, un dispositif notamment dédié aux reconversions, un financement spécifique pour le conseil en évolution professionnelle et une réforme de l'alternance. Alors, Pénicaud, elle parle de Big Bang parce qu'elle considère peut-être que ça ne va pas assez loin. Elle a déjà dit qu'elle reprendrait la partie de l'accord sur les nouveaux droits, mais elle veut aller plus loin sur l'architecture du système, qu'elle trouve plus complexe. Trop complexe, sur la gouvernance également. On y est dans le Big Bang ou pas, Nicolas Jachier, président du Syntec Ingénierie? Ça vous semble suffisant ou insuffisant, tout ce qui est proposé?
Le système de formation professionnelle n'a pas arrêté de se compliquer au fur et à mesure que des réformes se sont accumulées. J'ai mis accumulées parce que les réformes n'ont jamais complètement supprimé ce qui existait avant. Alors, il y a eu des gros efforts faits dans la négociation de l'accord, mais malheureusement, je pense que le compte n'y est pas en termes de...
Qu'est-ce qui manque, par exemple?
Le salarié ou l'entreprise qui a un besoin de formation, il faut qu'il parte sur un chemin d'initié pour s'y retrouver. Et je pense qu'on ne sort pas de
la complexité.
Cette méthode d'initié. Alors, les vrais initiés, ils y arrivent. Les autres, moins. Donc, je pense notamment aux PME, qui ont du mal à s'y retrouver. Et même dans les grandes entreprises, certaines s'en sortent bien, d'autres moins bien. Donc, vraiment, simplifier le système. Je suis pas sûr que le gouvernement, quand il parle de Big Bang, ira vraiment vers la simplification. Parce que s'il s'agit simplement de changer le mode de collecte, c'est pas ça la simplification. Le problème, c'est de savoir quel accès à quel dispositif pour les salariés et pour les entreprises. Voilà. Donc j'espère que le gouvernement ira un peu plus loin de la simplification, mais j'en suis pas sûr.
Catherine Smadja, qui a signé ce rapport sur la formation professionnelle, notamment montré qu'il y a des divergences et des handicaps pour les femmes, justement.
Oui, et justement, en fait, on parle de Big Bang et vous faisiez référence à l'importance de la formation initiale, mais aussi formation continue. Une des grandes difficultés pour les femmes, c'est le choix de départ de la formation, ce qui les oriente en fait, où elles s'orientent, elles sont orientées vers des métiers qui ne sont pas forcément des métiers d'avenir. Elles ont ce handicap de départ. Ensuite, lorsqu'elles veulent se reconvertir, on les réoriente vers des métiers du tertiaire, qui ne sont pas forcément les métiers, encore les métiers d'avenir. Si on veut vraiment faire un Big Bang, il faut aller vers ce que vous voulez tous faire, ce que vous avez essayé de faire, c'est davantage d'adéquation entre la formation que l'on propose aux personnes et les métiers d'avenir.
Ils vont en face, ouais.
Et cela va de soi, c'est ça le Big Bang.
Oui, et les métiers du tertiaire sont des métiers d'avenir aujourd'hui.
Certains.
Donc,
Florence Poivet, qu'est-ce que le gouvernement va garder? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle veut reprendre la main, que l'État veut reprendre la main de la formation professionnelle? Puisque, manifestement, elle trouve que c'est insuffisant sur le compte de formation. Le gouvernement veut que chaque salarié dispose d'une somme d'argent et non plus d'heures. Les organismes de formation, le gouvernement voulait qu'il y ait un petit peu plus de ménage. Bon, non, ils vont tous continuer à être certifiés par les branches. Puis l'argent de la formation ensuite, ce gâteau justement de 15 milliards, qui est-ce qui va le gérer justement? Est-ce que ça va être centralisé par exemple à l'URSSAF, à la Caisse des dépôts? Ou est-ce que vous allez les garder, ces 15 milliards, vous, les organismes paritaires, MEDEF et syndicats? MEDEF, c'est PME et autres.
Côté Big Bang, on en a un, l'apprentissage. On est très contents, il ne faut pas l'oublier.
Bon,
parce que
on
ça
n'oublie
reste
pas, on reste sur la formation. Vous avez raison, Florence.
Un des gros acquis de cette réforme. Sur la formation...
Vous allez vous faire, reprendre la main, reprendre le dossier par le gouvernement?
Non,
toute votre négociation.
Le gouvernement nous a confié une lettre d'orientation.
Oui.
On est à très peu de choses près dans la lettre d'orientation.
Mais il reste des
petits... Et c'est pour ça qu'il y a eu une réaction un peu vive d'un certain nombre des négociateurs sur les propos très rapides. On n'était pas encore mis d'accord. Et le gouvernement annonçait qu'il voulait aller un peu plus loin. Mais c'est un peu plus loin qui vient, je dirais, après que la commande nous ait été passée. Mmh. Alors, dans la commande qui nous a été passée, c'est vrai qu'il y a un point sur lequel nous n'avons pas répondu comme le gouvernement l'aurait souhaité. C'est sur le changement d'unité du compte. Passer à des euros,
des heures à des euros
ou à des points. Un certain nombre d'entre vous, vous êtes pour les euros. C'est une logique, c'est une philosophie.
Vous la voulez pas, vous?
Je la crains. Les Anglais l'ont tenté. Ils sont revenus en arrière. Les
Suédois. Pourquoi la craignez-vous?
Je la crains parce que pour plusieurs raisons. C'est moi qui ai lancé en 2013 le plus de liberté pour chaque salarié. Et le CPF, c'est venu de chez nous. Plus de liberté et au regard de ce plus de liberté, plus de responsabilité, mais plus de liberté. Et je suis prête et j'ai l'envie que le salarié ait encore plus de liberté. Mmh. Mais là, on est dans une sur-individualisation du compte. En ayant d'un côté des euros, enfin pas d'un côté, mais ayant des euros déposés dans une banque, la CDC, et que vous créez un écart considérable entre la personne et l'entreprise. Or, ce que Nicolas le disait tout à l'heure, le parcours de la personne, il doit venir à la rencontre des besoins des entreprises.
Est-ce que ce qui vous plaît pas, c'est que les euros soient à la CDC et non plus chez vous ?
Non, c'est que ça devient, si vous voulez, le salarié. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre. Ils sont revenus en arrière. C'est du contenu qu'il faut que le salarié avec du contenu qu'il s'enrichisse et non pas avec un produit qui a un coût. Il va regarder le coût plus que le contenu. Enfin,
il y a des choses différentes.
Est-ce que patronat et syndicats n'ont pas envie de continuer de faire tourner le système, de faire tourner cette usine à gaz quelque part comme avant, Francis Cramart?
Non.
Il me semble qu'il y a déjà une première chose qui est vicié dans le système depuis le départ, c'est l'obligation de payer. Elle me semble totalement délirante. Parce qu'elle ne bénéficie pas, et c'est clair, depuis des années, aux salariés qui...
Tous les employeurs de plus de 10 salariés doivent financer la formation professionnelle via une taxe sur la contribution.
On a pensé qu'en augmentant...
Sur la formation professionnelle.
On a diminué considérablement.
Enfin, bon, moi, j'ai vécu 0,8, j'ai vécu 1%.
On va bientôt se quitter. Faisons court. Francis Cramart, Guillaume Richard, chacun un mot.
Après, je ne sais plus ce que je veux dire, moi, si vous m'interrompez.
Ah bah oui, bien sûr. Il nous reste une minute, mais ça, allez-y.
Donc, deux choses très différentes. La formation qui est imposée par les entreprises, ça, c'est aux entreprises de payer sur le temps de travail. Exactement. Et puis, il y a la formation à la liberté, à la main des salariés. Là, elle doit pouvoir se faire à tout moment, hors temps de travail, notamment grâce au e-learning qui offre des possibilités extraordinaires.
Mais pour répondre à ce que vous évoquez tous, c'est-à-dire la difficulté pour les personnes de se repérer dans ce maquis, il est nécessaire d'avoir une certification des formations par des gens qui sont indépendants. C'est dans la forme de pays, c'est des agences.
Et non pas par les branches comme
la meilleure certification, c'est le choix, c'est les gens
les syndicats
qui vont
valider.
Non, je pense qu'il y a des méthodes de certification, il y a des normes. Je me souviens d'un rapport de Marc Ferracci, qui est conseiller de Pénico, qui parlait de normes AFNOR. Il y a des normes, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais il y a des façons de le faire. Des pays l'ont fait, on n'est pas plus con, on doit pouvoir y arriver. C'est nécessaire. Et la concurrence est absolument nécessaire. Ça n'est pas moi que vous ferez dire le contraire.
Tout ce que vous dites, vous avez l'impression qu'il y a une vraie volonté de réformer, où certains veulent continuer à garder une part du gâteau?
Non.
Alors, de la part du gouvernement, je pense que...
Pas de la part du gouvernement,
j'y crois bêtement. Ouais. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes... Si vous voulez, on n'a pas résolu le problème du financement des syndicats patronaux comme des syndicats des salariés.
Si, c'est réglé. Si, ça, c'est réglé.
Je suis content que ça soit réglé, mais vous qui le croyez.
Non,
juste un mot, Florence Pavès, qu'on va se quitter un instant. Le digital, il est où dans tout ça? Qu'est-ce que...
Moi, je voudrais juste... S'il y a une vraie volonté, et ce dont je me réjouis, c'est que depuis 3 ans, la formation professionnelle, enfin, est au cœur des sujets. Et elle est considérée comme une stratégie véritablement comme un levier stratégique pour les entreprises. Et si je dois conclure sur quelque chose de positif, c'est là-dessus que j'ai envie de conclure.
Et le digital dont parlait Guillaume Richard, le patron de O2, il intervient comment dans vos négociations, dans vos discussions avec les syndicats,
par exemple,
le gouvernement?
Nous avons, et c'est le gouvernement qui nous l'a demandé, on a dû redéfinir l'action de formation. L'action de formation, elle était très bridée. Elle est aujourd'hui, dans la définition, dans l'accord, très ouverte, avec du présentiel, avec du digital, avec du modulaire.
Sur le terrain, concrètement, c'est encore beaucoup. Mais oui, ça ne passe que par de l'expérimentation. Non, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est généralisé.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous me demandez dans l'accord...
C'est extrêmement utile.
Bien sûr.
Une certification indépendante.
La concurrence. La concurrence va dire, les bons, c'est avec du digital, et d'autres, c'est pas ça.
Eh ben voilà. Eh ben vous savez quoi? On y reviendra, parce que de toute façon, lundi, c'est l'annonce de ce Big Bang. Bon, en tout cas, c'est l'expression de la ministre, de Madame Pénicaud, donc à suivre évidemment sur BFM Business lundi matin. On y reviendra évidemment d'ici là, notamment dans Good Morning Business chaque matin. Merci beaucoup Florence Poivet, négociatrice du MEDEF sur la formation professionnelle, donc présidente de la Fédération de la Plasturgie. Francis Cramart, économiste, directeur du Centre de Recherche en Économie et en Statistique, l'un des grands spécialistes du monde de l'emploi. Nicolas Jachier, président du Syntec Ingénierie à la tête de son entreprise. Égis, Guillaume Richard, membre du comité directeur de Croissance Plus à la tête d'O2, et puis Catherine Smadja qui avait signé un rapport sur la formation professionnelle et ce manque de parité hommes-femmes, les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite bien sûr sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
AI may be the most important new computer technology ever, but AI needs a lot of processing speed, and that gets expensive fast. Upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. Do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic. Take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.